C'est en effet bienfaisant de pouvoir nous reposer toujours sur le Seigneur, attendre de lui avec espérance ses interventions. Et nous savons que c'est une réalité que nous pouvons le vivre. Nous en sommes reconnaissants. Ça fait plusieurs semaines que nous suivons Abraham dans sa vie, son expérience. Et nous allons continuer à suivre notre lecture du texte de la Genèse. Et je vous invite à lire maintenant dans Genèse, au chapitre 16, les 6 premiers versets. Genèse, chapitre 16, les versets 1 à 6. On est toujours dans la question de la promesse de Dieu d'offrir une postérité à Abraham, à Sarah. Et voilà donc l'épisode. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne dont le nom était Agar. Saraï dit à Abraham, « Puisque l'Éternel m'a empêché d'enfanter, va donc vers ma servante. Peut-être aurai-je un fils par elle. » Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit sa servante égyptienne, Agar, et la donna comme femme à Abraham, son mari, après qu'il eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Alors Saraï dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. C'est moi-même qui ai mis ma servante dans ton sein, et maintenant qu'elle se voit enceinte, elle me regarde avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Saraï, « Ta servante est entre tes mains. Agis donc à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Saraï maltraita Agar, et Agar prit la fuite loin d'elle. Jusqu'ici notre lecture, et je vous invite à un petit écho de ce récit dans le livre du prophète Malachi, au chapitre 2, les versets 13 à 15. Malachi reproche au peuple ses inconséquences entre sa vie quotidienne et les sacrifices, le culte qu'il offre. Et voilà ce qu'il dit, « Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il ne se tourne plus vers l'offrande et qu'il n'agrée rien de vos mains. » Et vous dites, « Pourquoi ?» C'est parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens en lui. Un seul l'a fait, et c'est Abraham. Et pourquoi ? Parce qu'il cherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde dans votre esprit que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. Jusqu'ici, notre lecture. Elle croyait qu'elle serait forte, Saraï, en proposant à Agar, sa servante, de s'engager dans une grossesse pour autrui en sa faveur. Mais elle n'a pas tenu. L'expérience à l'usage s'est avérée plus dure que ce qu'elle ne pouvait supporter. C'était trop. C'était devenu trop pour elle, au-delà de ce qu'elle était capable d'assumer. C'est pourtant elle qui avait eu l'idée, elle qui avait proposé. Impossible, maintenant que tout était en route et si dur à vivre, impossible de revenir en arrière. Nous nous croyons forts, nous aussi, pour oser certains choix personnels ou sociétaux. Nous nous persuadons que nous y arriverons, que tout ira bien, qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises. Nous savons tellement bien faire cela lorsque nous voulons vraiment quelque chose. Avant, tant que l'on pense, tant que l'on imagine, tout semble facile, réalisable. Après, une fois le processus en route, c'est parfois tout autre chose. Et il faut alors assumer, être à la hauteur. Car la réalité dépasse parfois ce que, dans notre optimisme ou notre inconscience, nous avions prévu ou refusé de voir. Nous voici en tout cas, avec ce texte et cet épisode de la vie d'Abraham, en phase avec des débats très actuels. Mais comme toujours, si nous voulons recevoir instruction, il nous faut entrer dans le texte biblique, dans sa situation, dans ses perspectives. Cela fait 10 ans maintenant qu'Abraham et Sarai ont quitté leur patrie pour le pays que Dieu leur a promis. 10 ans qu'ils obéissent et font confiance. 10 ans qu'ils attendent aussi que se réalise la promesse d'un enfant, d'une postérité. Dieu a renouvelé sa promesse, l'a précisée. Abraham sait désormais que la promesse concerne un fils issu de ses reins. Il sait aussi que Dieu s'est engagé fortement, personnellement, sur cette promesse. Mais voilà, 10 ans, c'est long. Surtout quand chaque mois, chaque année qui passe semble dire que c'est déjà trop tard. Abraham a entendu la voix du Seigneur. Il a été témoin de l'engagement du Seigneur également dans son alliance. Et on l'imagine porté, soutenu par ces révélations. Pour Sarai, son épouse, il en va tout autrement. Plus la promesse est donnée, renouvelée, plus elle se considère comme l'échec, l'obstacle à la promesse. C'est elle qui est stérile. Alors bien sûr, elle continue à diriger sa maisonnée, ses servantes et les enfants de ses servantes qui courent partout dans le camp. Mais autour de sa tente, il y a comme un périmètre de silence. Sarai impose le respect, elle est belle, elle est aimée d'Abraham, mais elle sait aussi qu'on parle d'elle avec une pointe d'apitoiement toujours, à cause de cette tente qui n'a jamais résonné d'un cri d'enfant, à cause de ce ventre qui n'a jamais porté la vie. Sarai certainement a prié Dieu des dizaines, des centaines de fois. Mais rien ne s'est passé. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce elle qui fait obstacle? Dieu n'aurait-il choisi qu'Abraham et pas elle? Notre récit commence par ces mots. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Le narrateur ici n'accuse pas Sarai. Mais il nous invite à entrer dans sa perspective à elle. Or, sa perspective à elle, c'est cela. Je ne lui ai pas donné d'enfant. Abraham pouvait dire, Dieu ne nous a pas donné. Pour Sarai, c'était plus cru, plus direct. C'est elle qui se sentait en cause. Ça nous rappelle que les mêmes choses ne se vivent pas de la même manière de l'un à l'autre. Au sein d'un couple, au sein d'une famille ou dans l'Église. Abraham vivait certainement sa situation comme une épreuve de sa foi. Sarai, elle, la portait comme un opprobre, comme une honte, comme une angoisse. Ont-ils pu en parler? Chacun était-il dans son monde, dans sa difficulté? Mais c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre celui qui peut se sentir impliqué, actif dans une situation, dans la foi, dans l'attente, et celui qui subit la même situation. Il est important parfois de savoir quitter notre regard pour essayer de percevoir aussi celui de l'autre. Il est important d'écouter, de chercher à comprendre ce que vit l'autre et de ne pas rester uniquement dans notre propre vision des choses. Et je suggère que c'est peut-être ce à quoi nous invite notre récit qui se situe du point de vue de Sarai cette fois-ci. En même temps, il faut dire que si jamais Sarai se considérait plus ou moins comme un obstacle à la promesse, elle avait tort. Elle avait tort. C'était à Dieu d'agir, c'était à Dieu d'intervenir. Dieu les avait pris ensemble, Abraham et elle. Ils avaient obéi ensemble. Dieu se glorifierait pour eux ensemble. Mais cela, Sarai ne le perçoit pas encore. Elle ne connaît pas comme nous le faisons, elle ne connaît pas la fin de l'histoire, elle ne connaît pas le miracle prévu dans le plan de Dieu pour montrer que rien n'est étonnant de la part du Seigneur. Pour elle, sa stérilité vient de Dieu. L'Éternel m'a empêché d'enfanter, dit-elle. C'est un constat lucide, douloureux. Nous en savons aujourd'hui un peu plus sur les causes de la stérilité. Nous savons d'abord que les hommes sont aussi en cause souvent. Nous savons qu'il y a des causes naturelles, physiologiques. Cela permet d'éviter d'attribuer directement à Dieu toute stérilité. même si nous savons qu'il reste souverain sur ce qui concerne notre vie dans son ensemble. Car c'est vrai, c'est dur et cela ajoute à la douleur, à l'incompréhension de se dire que Dieu est la cause directe de ce genre de situation. Mais que faire devant un tel constat? Le constat que l'Éternel m'a empêché d'enfanter. Alors quand on sait bien sûr la fin de l'histoire d'Abraham et de Sarah, on se dit mais il leur fallait juste persévérer dans l'attente, il leur fallait juste persévérer dans la confiance, sans surtout rien faire, sans aucune initiative qui puisse court-circuiter l'action de Dieu, car c'est Dieu qui agit dans cette situation. Mais on sait qu'en situation réelle, les choses ne se passent pas ainsi. En situation réelle, on ne connaît pas la fin de l'histoire quand on est au plein milieu. Il faut avancer de la façon la plus responsable possible avec les lumières que l'on possède. Parfois, c'est vrai, il faut attendre. Parfois, il faut agir, prendre acte d'une situation et voir ce que l'on peut faire vraiment. Il est légitime, par exemple, pour un couple qui ne réussit pas à avoir d'enfants, de choisir à un moment donné de se tourner vers l'adoption, par exemple, plutôt que d'attendre et de prier encore. Et ce n'est pas un manque de foi, c'est une prise en compte responsable de la situation. Avec quelle lumière Abraham et Saraï avancent-ils? Ils savaient qu'ils auraient une postérité. Dieu avait annoncé à Abraham qu'elle viendrait non pas en adoptant Éliézer, comme il avait pu le penser, mais qu'elle viendrait de la semence même d'Abraham. Par contre, rien ne leur avait été dit concernant le rôle de Saraï. Faisait-elle partie de la promesse? Son infertilité pouvait-elle dire qu'elle en était écartée? Il existait à l'époque une manière socialement acceptée, par laquelle une femme stérile pouvait avoir un enfant pour son couple. La femme donnait sa servante à son mari pour avoir un enfant. Si cela arrivait, c'était la femme et non la servante qui devenait juridiquement la mère. Elle élevait l'enfant, elle pouvait l'adopter et l'enfant avait droit à sa part d'héritage. On a retrouvé des traces de cette pratique dans des documents anciens, le code d'Hammurabi en particulier, un document juridique babylonien qui date de 1750 avant Jésus-Christ, hein, il est au Louvre, on peut le voir. Et donc là, ces choses-là sont notées dans ce code. Et dans les récits bibliques, on voit que Rachel, puis Léa, femme de Jacob, auront recours à cette pratique. Rachel, à cause de sa stérilité, Léa, par rivalité avec Rachel. Et c'est ici ce que propose donc Saraï à Abraham. Elle a une servante qui est dédiée à ses soins, Agar, l'Égyptienne. Il y a certainement une connivence, une proximité particulière entre les deux femmes. C'était sa servante à elle, beaucoup de relations. Peut-être aurais-je un fils par elle, suggère Saraï. Elles en ont probablement parlé entre elles avant. Elles estiment leur complicité assez forte pour que cela puisse se faire. On peut raisonnablement considérer dans ce contexte que cet acte est accepté par Agar et qu'il n'est pas une forme d'esclavage sexuel. Pour Saraï, qui laisse son mari à Agar, cela montre que le besoin de mettre fin à son déshonneur de femme stérile prime sur tout. Si son projet prend en compte aussi la promesse de Dieu, cela montre aussi peut-être une sorte de résignation douloureuse. Si Dieu ne veut pas de moi pour porter l'enfant d'Abraham, je ne veux pas faire barrage. Et peut-être que c'est cela le chemin par Agar, ma servante. Voilà donc le projet de Sarah qu'elle soumet à Abraham. Que dire d'Abraham dans cette affaire? Il nous est dit, verset 3, « Abraham écouta la voix de Saraï ». Suggère-t-on qu'il a été trop passif, qu'il n'a fait qu'écouter, alors qu'il aurait dû apporter des paroles de foi, des ressources de foi? C'est ce que disent certains, de nouveau, en connaissant la fin de l'histoire. Mais peut-être qu'écouter Saraï pour Abraham, cela voulait dire aussi simplement être sensible à sa douleur. Vouloir pour elle enfin une espérance, pour elle enfin une solution. en sachant bien sûr qu'elle ne pouvait pas proposer ce genre de choses de gaieté de cœur. C'est difficile de se déterminer entre les deux interprétations de l'écoute d'Abraham, mais il faut juste nous rappeler que dans ce genre de situation, rien n'est simple. Rien n'est simple. Et que celui qui a persévéré 10 ans dans la prière pour attendre une réponse de Dieu, que celui-là se lève le premier pour donner des leçons à Abraham, à Sarah. Abraham va donc vers Agar et elle devient enceinte. Et voilà un exemple biblique de grossesse pour autrui, de GPA, comme on dit si bien aujourd'hui. Alors avant de continuer, il nous faut faire ici une pause et nous demander quelle est l'intention de notre récit en nous rapportant cela. J'ai parlé de cette pratique comme une pratique socialement et légalement acceptée à l'époque d'Abraham. Est-ce que cela veut dire que pour la Bible aussi, une telle pratique est acceptable ? L'exemple d'Abraham valide-t-il un tel recours, une telle manière de faire ? Alors, il faut rappeler ici qu'un exemple n'est qu'un exemple. Un exemple n'est qu'un exemple. Et un exemple peut nous être donné comme un exemple positif à suivre, mais aussi comme un exemple négatif à ne pas suivre. La plupart du temps, un exemple nous est présenté avec ses conséquences pour nous faire réfléchir. Et le but, c'est de nous faire réfléchir. Et cette pédagogie par l'exemple nous responsabilise en tant que lecteurs. C'est à nous de tirer nos conclusions à la lumière du texte et de l'écriture dans son ensemble. Donc c'est un premier plan. Nous avons ici un exemple. Un exemple n'est qu'un exemple. Deuxième réflexion est qu'un acte socialement et légalement accepté à une époque n'est pas forcément moralement juste. Et je crois que ça, il faut le dire aussi. Ce n'est pas parce que le code d'Amourabi autorise cette pratique qu'elle est juste dans la pensée de Dieu. Il en va de même aujourd'hui. Par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme, il ne faut pas confondre ce qui est légal et ce qui est moral. Alors que dire plus précisément de cette affaire entre Abraham, Sarah et Agar ? Le récit de la Genèse, pris en lui-même, nous montre les fruits amers, les conséquences difficiles, douloureuses de cette histoire. Tout a été beaucoup plus compliqué à assumer que ce que l'on imaginait. Et ce que nous enseigne ce texte, c'est cela. Attention, voyez dans quoi vous vous mettez avec ce genre de choses. Vous entrez dans des réactions, dans des enchaînements que vous ne maîtrisez plus. Et les exemples de Rachel et de Léa vont dans le même sens. Y a-t-il un commentaire moral sur cet acte ? Cette forme, à l'époque, de grossesse pour autrui impliquait quand même des relations intimes entre les partenaires, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui grâce à la médecine. Le prophète Malachi, dans sa théologie du mariage comme une alliance exclusive entre un homme et une femme, doit traiter de l'acte d'Abraham quand il s'élève contre l'infidélité qui avait cours à son époque. Et il dit « Personne ne trahit l'alliance avec sa femme avec un reste de bon sens. » Mais il doit continuer et dire « Un seul l'a fait, un seul l'a fait. » Et pourquoi ? Parce qu'il cherchait une descendance que Dieu lui avait promise. « Prenez donc garde dans votre esprit que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. » La femme avec laquelle il s'est marié dans sa jeunesse. C'est ça ce que veut dire la femme de sa jeunesse. « Un seul l'a fait, » dit Malachi. C'est Abraham avec Agar. Alors Malachi explique, il l'a fait parce qu'il cherchait une descendance. Malachi reconnaît donc que l'intention d'Abraham n'était pas de trahir Sarah, mais de chercher une postérité, la postérité promise par Dieu. Et ça, me semble-t-il, ça c'est l'impact du fait que c'était culturellement accepté à l'époque. Le fait que la pratique était culturellement acceptée permet de retenir que l'intention d'Abraham dans cet acte n'était pas l'infidélité, mais de chercher une postérité. Mais ceci dit, Malachi affirme quand même qu'Abraham a trahi son alliance avec Sarah. Il dit « Personne ne trahit l'alliance avec un reste de bon sens, un seul l'a fait. » Et « un seul l'a fait », ça veut dire « un seul a trahi. » Et celui-là, c'est Abraham. Et la conclusion clair est qu'Abraham ne peut pas servir d'exemple. Ce qui veut dire que l'orientation des récits bibliques n'est donc pas de justifier ou de légitimer une telle pratique, mais bien plutôt de nous montrer à quelles difficultés elle peut conduire et de nous aider à y réfléchir. Quelles sont-elles, ces difficultés qui interviennent dans une telle situation? C'est qu'une toute une série d'émotions et de comportements inattendus, mais tellement humains, voient soudain le jour. Alors, il faut un petit peu lire entre les lignes le récit qui est quand même bien sobre. Agar, devenue enceinte, se découvre une nouvelle identité. Elle porte l'enfant d'Abraham. Ça veut dire quelque chose. Abraham était le chef du clan, la figure la plus haute. Elle porte l'enfant d'Abraham. Elle est certainement l'objet d'attention particulière dans le camp. Probablement qu'au début, Sarah elle-même la traite avec des égards particuliers et tente de jouer la complicité qui les unit dans leur projet commun. Mais voilà, le statut d'Agar change. Il arrive qu'on la félicite peut-être comme si elle était la véritable épouse d'Abraham. Elle n'est plus la même, elle ne peut plus être la même. Elle n'est pas non plus un simple ventre qui porte un enfant à donner. Elle est une personne à part entière. Tant de choses se passent en elle, autour d'elle. Elle commence à regarder Sarai différemment, d'égal à égal. Elle oublie un peu sa place de servante, et c'est normal. On lui a donné un rôle, une dignité qui dépasse le simple rôle de servante. Alors oui, il lui arrive de regarder Sarai avec une pointe de fierté, de s'affirmer, de ne plus laisser faire et dire les choses comme avant. Alors le code d'Amourabi interdisait à une servante de se placer à égalité avec sa maîtresse. Mais vous savez, dans la réalité, il y a des choses qu'aucune loi ne peut réguler. Et c'est vraiment ce qui se passe ici. Et Sarai, qui pensait être si forte, elle se découvre tout d'un coup, envahie par toutes sortes de sentiments. Le bonheur d'Agar la renvoie à son propre manque, à elle. Elle devrait pouvoir comprendre qu'Agar n'est plus la même. Mais rien n'y fait, tous les faits et gestes de sa servante deviennent comme une agression pour elle. Elle doit se battre chaque jour contre la jalousie, le dépit qui monte en elle. Impossible de jouer la complicité qu'elle imaginait avant. Chaque jour lui est renvoyée l'image de sa servante enceinte, alors qu'elle, Sarai, est stérile. Elle est à cran. Alors un jour où Agar manifeste une nouvelle pointe de fierté et refuse quelque chose, tout explose. C'est un outrage ! Bien sûr que Sarah surréagit. Elle convoque Abraham, elle prend le Seigneur à témoin. Abraham refuse d'intervenir entre sa femme et celle qui porte son enfant. Pour lui aussi, les relations ont changé. Il se découvre attaché à Agar plus qu'il ne le pensait. Il choisit alors la solution de la distance raisonnable. C'est ta servante, c'est votre affaire. Et non, Abraham, c'est aussi la tienne. Dès lors, les choses s'inversent. Sarai maltraite Agar, qui devient l'objet de son ressentiment, de sa frustration, qui s'exacerbe chaque jour. Abraham n'intervient pas, alors qu'il devrait le faire là. Et ce qui devait arriver arrive. Agar doit prendre la fuite. Bilan, ce qui devait apporter une solution et l'harmonie crée une situation de tension et de frustrations aiguës. Et chacun se trouve en difficulté. Que nous enseigne ce récit? Ce récit met le doigt sur l'incontournable dimension personnelle qui intervient dans tous nos actes, dans toutes nos relations. Il y a une dimension personnelle qui est impliquée dans tous nos actes, dans toutes nos relations. Nous sommes des personnes à part entière. Ce qui se passe lorsque nos corps sont impliqués retentit sur toute notre personne et ne peut pas être sectorisé. Agar n'est pas un ventre, elle est une personne à part entière. Sa grossesse devient sa vie à elle, quelle qu'en soit la cause, quelle qu'en soit la perspective, quel que soit le contrat concernant l'avenir de l'enfant. On a beau écrire sur le papier qu'elle n'intervient que pour porter, que pour transmettre un embryon qui deviendrait un enfant, elle est impliquée personnellement dans cet acte, avec toutes les fibres de son être. C'est faire une violence à la personne que de nier cette réalité. Et ceci d'autant plus que dans le cas d'une grossesse, la durée s'en mêle. C'est ce que font valoir à juste titre aujourd'hui ceux qui s'opposent à la GPA. Demander à une femme d'enfanter à la place d'une autre signifie concrètement qu'elle doit vivre 9 mois et 24 heures sur 24 en faisant abstraction de sa propre existence corporelle et morale. Elle doit transformer son corps en instrument biologique du désir d'autrui. Je cite ici Sylvia Nagasinski. La plupart des grossesses pour autrui sont en outre proposées aujourd'hui contre rémunération. Vous savez que le modèle américain de GPA permet à des agences privées de mettre en rapport des couples et des mères porteuses, moyennant des sommes qui vont autour de 50 000 à 60 000 dollars. C'est ça le monnayement des choses. Et on assiste donc à quoi ? On assiste à une marchandisation de la personne de la mère porteuse. Sans parler des modèles indiens et ukrainiens, où des femmes pauvres acceptent de louer leur corps dans des cliniques spécialisées où elles séjournent 9 mois pour satisfaire la demande de couples occidentaux fortunés. Où est le respect de la personne dans tout cela? Où est le respect de la personne? Ces femmes agissent-elles de leur plein gré ou profitent-on de leur pauvreté et de leur précarité? Une fois qu'elles rentrent chez elles avec leur argent et sans l'enfant qu'elles ont porté, qui s'intéresse à elles? Qui s'intéresse à elles? Elles sont des personnes. Et pourtant, il aura fallu brimer cette réalité pendant tout le temps de leur grossesse. Elles ont dû s'interdire toute relation, tout attachement à l'enfant qu'elles portaient, avec tout ce que cela éveillait certainement en elles. Et cela non par choix, mais pour quelques biais qu'elles ont maintenant entre les mains. Marchandisation, non-respect de la personne. Et pourtant, nous sommes et nous restons des personnes dans tous nos actes. Et non seulement la mère, mais l'enfant, bien sûr, devient aussi une marchandise. On paye pour avoir un enfant. Si l'enfant ne répond pas aux critères souhaités, s'il est handicapé, par exemple, le couple peut le refuser. Vous vous rendez compte? Le couple peut le refuser. Et alors l'enfant est confié à l'adoption. C'est ce que préconisent certains courants qui créent même un droit à l'abandon pour les femmes pour les parents qui voudraient avoir des enfants et qui les refuseraient, un droit à l'abandon, et ce droit à l'abandon n'existe nulle part. Il y a le consentement à accepter un enfant, l'autorité parentale, mais pas le droit à l'abandon. Et qu'advient-il de l'enfant s'il est refusé? Où est le respect absolu pour l'enfant comme personne? Qu'on le veuille ou non, dans ces situations, les enfants aussi deviennent des objets que l'on commande, que l'on fabrique et que l'on livre. Alors bien sûr, certains, en parlant de la grossesse pour autrui, pensent à la possibilité qu'il puisse y avoir des GPA éthiques, qui ne seraient pas monnayées, aucune affaire d'argent, mais pratiquées par exemple par des femmes solidaires de couples sans enfants. Ah, l'idée est belle, généreuse, sur le papier. Mais concrètement, combien de femmes accepteraient cela par pure générosité, sans aucune contrepartie, sans y être contrainte par un besoin? Combien? Et pour l'une ou l'autre qui peut-être aurait cette perspective, combien se serviraient de ce droit une fois qu'il est acquis pour monnayer leur service ou leur demande de service par des dessous de table? Si on ouvrait à ces GPA éthiques, combien de GPA non éthiques suivraient? Et puis, la réalité humaine et relationnelle est toujours beaucoup plus complexe que ce que l'on écrit sur le papier. Et c'est ici que notre texte est intéressant. C'est certainement une GPA éthique, celle-là, consentie, volontaire, dans les meilleures conditions. Et voyez comme toutes les choses vont partir dans un sens qui n'était pas du tout prévu, parce que la réalité humaine, la réalité personnelle est là. Agar, Sarah et Abraham ont agi probablement d'un commun accord, mais que de choses inattendues, que de sentiments, réactions incontrôlées se sont manifestées soudain. Nous sommes et nous restons des personnes à part entière dans tout ce que nous faisons, dans tous nos actes. C'est parfois bien compliqué, mais c'est en même temps notre richesse. C'est notre fondement inaliénable. Et il nous faut veiller avec une grande attention à ce que le droit, la législation, à ce que nos comportements et nos choix respectent toujours cette dimension personnelle. Notre récit, en tout cas, nous invite à veiller à nos choix, à nos décisions. Il est si facile de se dire à la va-vite, oui, tout ira bien, tout ira bien. Nous devons peser nos décisions, être lucides sur nous-mêmes, sur notre patte humaine, sur notre réalité humaine. Notre récit nous invite aussi à la sagesse et à l'humilité. Il ne nous donne pas une grande leçon de morale à propos de cet événement. Il n'y a pas aucune instruction morale très claire donnée. Mais il veut nous faire réfléchir. Il veut vraiment nous faire réfléchir. Il veut que nous nous approprions cette expérience révélatrice de ce qu'est notre réalité humaine pour nous comporter de manière sage, pondérée, attentifs aux enjeux et aux situations que nous vivons. Ne nous croyons pas au-dessus d'Abraham, d'Agar, de Sarai. Nous avons en eux un miroir de ce que nous sommes. Et c'est un beau cadeau que cette invitation qui nous a faite de veiller à des choix responsables. Enfin, ce récit nous dit aussi, au milieu de ces choix, parfois compliqués, nous dit la compassion de Dieu. Car nous le verrons la prochaine fois, Dieu prendra soin d'Agar, maltraitée pourtant par Sarai après qu'elle ait été sollicitée. Dieu prendra soin d'Ismaël, le fils d'Agar. Il n'oubliera pas non plus Abraham et Sarai. Au chapitre suivant, on voit Dieu changer leur nom à tous les deux et leur donner des noms élargis par la promesse de Dieu pour chacun d'eux. Et Sarah découvrira qu'elle fait partie, elle aussi, du projet de Dieu, elle personnellement, qu'elle n'est pas laissée sur la touche. Nous avons un Dieu fidèle, un Dieu qui nous accompagne dans nos cheminements, dans nos tentatives parfois, nos tentatives heureuses, nos tentatives moins heureuses. Dieu veut nous accompagner, il reste fidèle. Il a montré en Jésus, venu vers nous, combien il prenait à cœur notre humanité, comment il prenait à cœur notre situation. Alors, ayons confiance, nous pourrons toujours compter sur lui, mais veillons à agir de manière sage avec toutes les lumières que nous donne sa bonne parole. Amen.